Je vais demander à Monsieur Willy Allègre, qui est ingénieur à Carpap, de venir présenter un logiciel de communication qui a été développé à Carpap et signifier au public que s'il y a des questions particulières assez techniques aux différents intervenants, dont Monsieur Allègre, vous pourrez aller pendant le repas, les uns et les autres vont essayer de se tenir à disposition au niveau du hall des exposants. Donc pas de questions, désolé.
Merci. Bonjour à tous. Alors, hop, je vais essayer de revenir en arrière. Ok. Alors, je tiens à associer pour cette présentation Jean-Paul Depart, qui est mon collègue au laboratoire d'électronique de Carpap, et aussi Jean-Yves Antoine, qui est professeur à l'université de Tours, et avec qui, en fait, on a travaillé pour développer donc, ce logiciel d'aide à la communication qui s'appelle Sibyl. J'ai séparé ma présentation en deux parties. En première partie, je compte vous présenter quand même nos activités, alors rapidement, et puis ensuite vous présenter Sibyl, ses fonctionnalités, etc. Donc moi, j'appartiens au laboratoire d'électronique où on est deux personnes, deux ingénieurs. C'est une des originalités du centre de rééducation de Carpap, qui est situé en Bretagne, près de Lorient. Où notre mission principale, c'est d'adapter, parfois de développer des aides techniques, électroniques, informatiques pour les patients du centre. Alors bien sûr, on ne travaille pas seul. En tant qu'ingénieur, on se doit de rassembler différentes compétences. On travaille entre autres avec des ergothérapeutes, orthophonistes, médecins, kinés, suivant les besoins. Et puis il y a à peu près un tiers de nos activités qui sont dédiées à des projets de recherche et d'innovation technologiques. Donc ce sont des projets nationaux, un petit peu comme les projets auxquels participe la plateforme Nouvelle Technologie de Garches. Et on est également membre associé à un laboratoire qui s'appelle le LabStick. J'en profite pour représenter du coup Jean-Yves Antoine, professeur à l'Université de Tours avec qui on a travaillé. Donc au quotidien, on adapte, je vous l'ai dit, on développe parfois des aides techniques électroniques informatiques. Là, vous avez une idée des différents types d'aides techniques sur lesquelles on intervient. Alors, il y a l'accès au TIC, technologie de l'information et de la communication. En gros, comment avoir accès à une tablette, un smartphone ou un PC. L'aide au déplacement, l'aide à la communication, la domotique ou encore l'aide à la rééducation. Alors, je vais passer rapidement. Là, j'ai quelques diapos ensuite. Mais l'idée, c'était de vous montrer, en fait, sur cette même diapo, qu'il faut avoir finalement une vision globale sur ces différentes aides techniques. On ne peut pas dissocier aide à la communication des autres. En fait, quand on parle d'aide à la communication, on a besoin de savoir comment aussi on interagit avec le support, que ce soit une tablette, un PC ou autre. On a besoin de communiquer quand on est également en fauteuil, donc il faut trouver des systèmes qui soient compatibles avec des fauteuils roulants électriques notamment. Et puis, fauteuil roulant électrique à partir duquel on veut aussi contrôler ou on peut contrôler son environnement. Donc je vais passer rapidement là-dessus parce que la présentation tout à l'heure a été complète. Ce qu'on fait au labo, c'est qu'on adapte des contacteurs, alors mécaniques, pneumatiques, commandos souffle par exemple, ou des contacteurs tactiles, en plus des contacteurs qu'on peut trouver par exemple dans la mallette CRNT. On fait des adaptations particulières, on fait nous-mêmes des contacteurs en fonction des besoins. On adapte et on configure également des interfaces, que ce soit des interfaces grand public comme des joysticks, trackball, reconnaissance vocale, ou encore spécialisées comme des claviers virtuels, des logiciels de ce qu'on appelle dead tracking. Donc, ce sont des logiciels qui vont utiliser la webcam de l'ordinateur ou de la tablette qui vont filmer le visage de la personne et en fonction des mouvements, on va pouvoir piloter le curseur de la souris. De la même manière, on adapte et on configure des logiciels d'eye tracking, cette fois-ci à l'aide des mouvements de la pupille. On va pouvoir contrôler le curseur. Et on fait un peu de développement aussi d'interface, alors joystick, boîtier à contacteur. Et dernièrement, on a développé un logiciel justement pour exploiter les signaux BCI, donc interface cérébrale. Donc c'est un casque qui se porte, XI, qui a été développé dans le domaine du jeu vidéo. Et l'objectif pour nous, c'était d'exploiter certaines expressions faciales, cligner des yeux, hausser des sourcils. Donc on arrivait à prendre deux expressions faciales comme ça, et à pouvoir faire des actions sur l'ordinateur. Donc ça, c'est un travail en cours. Pour l'instant, c'est pas encore assez abouti pour le proposer aux patients. Au niveau de l'aide au déplacement, je vais passer rapidement. Donc, il y a beaucoup de configurations logicielles possibles, liées au déplacement bien sûr, mais aussi à la manipulation du joystick, sensibilité, la zone du neutre, etc. On adapte également des interfaces quand l'utilisation du joystick manuel est trop compliquée, des commandes occipitales par exemple, avec des mouvements de la tête pour pouvoir se déplacer, des mini-joysticks au doigt, des joysticks au menton, etc. Et donc en fauteuil, on peut intégrer également différentes fonctionnalités, comme des fonctionnalités de domotique, de téléphonie et d'accès à l'informatique. Je passe rapidement encore une fois. Et donc au niveau de la domotique, c'est un de nos domaines d'expertise au labo. On intervient à deux niveaux pour le choix de l'interface de commande, ce que va avoir la personne avec elle, qui va lui être accessible. Et puis au niveau du choix technologique de système à installer et choix des équipements. On intervient à plusieurs niveaux. Dans les chambres de CarePap, il y a une cinquantaine de chambres en fait, qui sont équipées en domotique avec le contrôle à distance de l'appel, des volets, des baies vitrées, des lumières. On intervient également dans les appartements tremplin. Ce sont deux appartements qui sont mis à disposition des patients pour qu'ils puissent, sur un court séjour, pendant une semaine, en fait, évaluer, tester leur autonomie avant le retour à domicile. L'idée étant que entre le séjour dans un centre de rééducation et le retour à domicile, le grand écart est parfois un peu difficile. Et donc là, les appartements tremplin sont vus comme une sorte de phase transitoire entre ces deux étapes-là. Et on intervient enfin au niveau du retour à domicile. On fait concrètement un cahier des charges que les artisans vont devoir suivre pour l'aménagement, pour des projets de rénovation ou de construction après, liés à la domotique. Au niveau de l'aide à la rééducation, on fait passer des tests régulièrement avec Ergo et Kiné, des tests de mesure de pression pour la prévention des scars. Donc c'est le système que vous pouvez voir ici. En fait, c'est une nappe qui est composée de capteurs de pression et donc qui nous permet, à l'aide d'un logiciel, de voir la répartition qui s'exerce au niveau de l'assise quand on est en fauteuil. Et donc, ce que l'on cherche à éviter, c'est des points de pression particuliers au niveau des ischions, les os des fesses, qui sont sujets justement à... Qui provoque bien souvent des escarres en position assise. Et pour ça, on va choisir un coussin adapté à la personne ou faire des réglages au niveau du fauteuil. Là, c'est le lot des plutôt Ergo et Kiné. On développe également des prototypes. Je passe rapidement. Pour arriver à l'aide à la communication, où notre rôle, c'est bien sûr d'adapter, de configurer des synthèses vocales dédiées qui ont l'avantage, on l'a déjà dit, d'être robustes, étanches, par rapport au bavage par exemple, et autonomes aussi, dans la plupart des cas. Et on fait aussi de l'adaptation sur des supports grand public, tablettes, PC, smartphones. Donc en fonction des systèmes d'exploitation qu'on a en face de nous, par rapport au support, on va proposer des logiciels, applications, en fonction des besoins aussi forcément de la personne. Donc pour cette partie-là, on travaille beaucoup avec les orthophonistes pour la communication. C'est elles qui vont, je dis elles parce qu'il n'y a que des femmes orthophonistes à CarePap en tout cas, qui vont nous dire quel type de langage va être utilisé, orthographique, pictographique, phonétique. Et puis on va travailler avec les ergothérapeutes pour ce thème-là, pour tout ce qui est accessibilité, donc commande avec défilement, commande avec accès direct, avec temporisation, etc. Et donc dans ce thème-là, il existe déjà plein de logiciels, d'applications. On a en plus développé de notre côté, et depuis quelques années, un logiciel qui s'appelle Sibyl, et donc qui a été développé, c'est Jean-Yves Antoine, un professeur à l'université de Tours, qui a initié ce projet il y a plus de 10 ans maintenant. Et récemment, on a mis à jour ce logiciel-là pour le rendre public et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est de... On a fait un site web, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, où on peut télécharger ce logiciel, il est mis à disposition gratuitement et l'utiliser. Alors pourquoi Sibyl ? En fait, vous voyez l'image sur la gauche ici. Sibyl, c'est un personnage de la mythologie grecque qui prédit l'avenir, et donc le lien a été fait avec la prédiction de mots pour les outils d'aide à la communication. Ici, c'est une peinture de Michel-Ange qui est présente au niveau de la chapelle Sixtine. Et donc la prédiction de mots, justement, c'était le point clé sur lequel des chercheurs ont travaillé, de l'Université de Bretagne Sud, également de l'Université de Tours. Il y a eu deux thèses qui sont passées là-dessus. Donc la première thèse d'Igor Chadley, qui a proposé un premier moteur de prédiction de mots efficace. Là, c'était une prédiction seulement statistique, seulement entre guillemets. Et il a également proposé un tableau de lettres dynamique. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va saisir une lettre, on va avoir donc sur le tableau de lettres les lettres qui vont se réorganiser pour, dans les premières positions, avoir les lettres les plus probables qui vont être utilisées de manière la plus probable. Je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte pour tout le monde. La deuxième thèse, c'était celle de Tonio Van Macher, qui a lui proposé une prédiction contextuelle. Donc en plus de la prédiction statistique, là, on crée un contexte à partir des 100 derniers mots que l'on aura saisis pour faire la prédiction de mots. Par exemple, si on se met à parler avec un vocabulaire de cuisine, j'ai fait un gâteau au, et qu'on commence à saisir la lettre C, il y a de fortes chances dans Sibylle, c'est même garanti, que chocolat soit proposé dans la prédiction de mots. Peut-être même avant d'avoir saisi la lettre C. Parce que du coup, le logiciel a réussi à prédire finalement le contexte d'utilisation et va cibler les mots à proposer par rapport à ce contexte-là. En 2008-2009, il y a eu le projet Voltaire qui avait pour but d'intégrer cette prédiction de mots efficace dans le clavier virtuel Civique, donc clavier virtuel qui lui a été développé par la plateforme Nouvelles Technologies de Garche en collaboration. Et puis dernièrement, en 2014, il y a eu un stage à CARPAP fait par Mathieu Thébault qui a mis à jour ce logiciel pour le rendre disponible et en ajoutant des nouvelles fonctionnalités donc par rapport à nos besoins, nous, de terrain et par rapport aussi au retour d'expérience qu'on a pu avoir par rapport aux dernières configurations. Donc comment se positionne ce logiciel? C'est un logiciel Windows, donc il faut savoir qu'il ne peut pas s'installer forcément sur iPad ou sur un système Android. Il est gratuit, configurable, c'est souvent pas le cas dans les logiciels gratuits, ils sont présentés avec des tableaux fixes que l'on ne peut pas configurer, enfin, ça arrive souvent. Ici, il y a vraiment plein de paramètres configurables. Donc il a une prédiction de mots qui est performante, un tableau de lettres dynamique aussi, une prédiction de lettres qui l'est. Et avec Sibylle, on peut faire à la fois donc, de la communication, du clavier virtuel et aussi du déplacement de souris. Je vais vous montrer tout à l'heure sur une vidéo ce que ça donne. Donc voilà, là, j'ai listé les grandes fonctionnalités du logiciel. On retrouve de la prédiction de mots, donc je vous l'ai dit, à la fois statistique mais aussi contextuelle. Donc en fonction du contexte d'utilisation, des mots vont être prédits pour accélérer la vitesse d'écriture. Une prédiction de lettres, l'utilisation de la synthèse vocale qui s'appelle SAPI 5, en fait, c'est les synthèses vocales qui sont utilisées sous Windows, et on peut notamment utiliser les voix Voxygen, ça a été testé. Je ne sais pas si vous connaissez Voxygen, c'est une société bretonne, justement, qui a développé des voix, et notamment des voix d'enfants, pour la première fois en France, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Au niveau de l'accès à l'informatique, ce sont des voix d'enfants, et puis des voix expressives aussi. Au niveau de l'accès à l'informatique, donc on peut retrouver des claviers virtuels, enfin on peut faire des configurations de claviers virtuels, des déplacements de souris, et puis gérer différents modes d'interaction. Sur cette image-là, on voit en fait donc un texte qui a été écrit, « Je communique avec mon père Emma », et vous voyez que sans même, donc ce qu'on aurait aimé écrire là c'est « mère », sans même écrire la première lettre du mot « mère », il a été proposé ici, parce que justement, c'est une prédiction contextuelle. Vous pouvez faire l'essai avec vos smartphones, etc. Vous n'aurez pas le même résultat. Et en fait, donc si on regarde bien la liste au niveau de la prédiction de mots, là, on a mère, fille, famille, sœur, grand-mère, femme et tante. Donc que des mots qui ont un lien avec ce qui a été saisi avant, à savoir mon père. Ici, on a une configuration avec des phonèmes. Donc ça, c'est une orthophoniste qui nous a proposé ça. Donc, qui est retranscrit ensuite en orthographique. Donc le « il fait beau » est mal orthographié, mais l'entrée, ça a été les phonèmes donc, que l'enfant a sélectionné, le « i », le « le », le « feu », le « o », le « e », pardon, etc. pour saisir « il fait beau ». Et ici, vous avez une autre configuration, cette fois-ci, c'est une souris virtuelle Donc en défilement, il y a les différentes cases qui défilent. Avec un contacteur, je choisis la direction. Le curseur qui est représenté ici va se déplacer à l'écran. Je rappuie sur le contacteur pour le stopper, le défilement va reprendre, etc. Et puis ici, on voit en fait un clavier virtuel avec la fenêtre de configuration qui est ouverte. Donc tout ça pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans parce qu'il y a vraiment plein de paramètres, pour vous dire que tout est configurable. Sibyl, ce n'est pas juste ce que vous allez voir sur le site, on a une image d'une configuration. On peut faire tout ce que vous voyez là et plus encore.
Plus que 5 minutes.
Alors maintenant, j'aurais aimé présenter une vidéo en fait, d'un patient qui est à CarePAP, un patient lisse, pour vous raconter peut-être un petit peu d'où on est parti. On est parti d'un tableau de lettres, une version papier, donc, qui représentait ça. Hop. Et donc, l'idée, c'était en face de lui de désigner les couleurs qui correspondaient aux lignes. La personne...
5 minutes.
5 minutes, très bien. La personne, du coup, clignait des yeux pour sélectionner, donc Reynald, clignait des yeux pour sélectionner la ligne en fonction des couleurs et clignait des yeux ensuite pour sélectionner la lettre dans la ligne choisie. Donc on est parti de ça et ensuite on a intégré cette organisation de lettres et de couleurs dans Sibyl. On a en plus mis en bleu clair, je ne sais pas si tout le monde voit, si ça va à peu près, des cases de fonctions, donc ici pour parler, tout effacer, etc. Et puis ici des raccourcis pour aller vers le clavier virtuel, ou là vers Facebook en lançant le clavier virtuel. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite pour que ce soit plus parlant. Alors c'est pas dépendant de moi, j'attends juste le départ là-bas. Ok. Donc vous avez pu voir, voilà, on sélectionnait les différentes lettres. Le dernier, là je parle, il n'y aura pas de sortie de son, il n'y a pas la synthèse vocale. Donc la personne va sélectionner du coup les différentes lettres, utiliser la prédiction de mots. Et là vous allez voir un exemple de justement de prédiction contextuelle. Je communique avec mon cette fois-ci, on va mettre fils. Et vous allez voir ce que la prédiction va proposer. L'idée, c'est d'écrire ma fille, et voilà, sans même en fait, avoir saisi le premier caractère, F, la prédiction de mots l'a déjà proposé. En fait. Ici, vous allez voir un exemple de clavier virtuel. Donc, on a cliqué sur l'icône YouTube, ce qui permet de lancer le navigateur Internet et en même temps de lancer la configuration clavier virtuel. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. On retrouve les mêmes lettres avec la prédiction de mots au-dessus, et puis les touches de fonction. Donc là, l'idée, c'était de faire une recherche sur YouTube de l'association Alice. C'est ce qui va être fait ici. On va ensuite appuyer sur le bouton Entrée pour faire cette recherche et donc aller sélectionner le lien. Un autre exemple ici, et pour vous montrer aussi comment accéder au site du logiciel Sibyl. Donc en fait, il suffit de taper sur Google Sibyl CarePAP et vous allez pouvoir atteindre le lien, donc celui-là. Je vous donnerai l'adresse à la fin de la présentation. Hein. Donc voilà sur quoi on tombe. Alors ici, c'est un exemple où quand on appuie sur une case, on va avoir une configuration vraiment minimale pour cacher en fait le clavier virtuel. Quand on réappuie sur la case, vous avez vu que le clavier virtuel est réapparu. Donc là, on revient ensuite sur l'aide à la communication pour saisir au revoir. Alors là, vous voyez que c'est... Donc en fait, j'ai fait une vidéo, là je l'ai fait moi-même, à la souris. Reynald, lui, utilisait d'abord du défilement, quand il pouvait cliquer uniquement avec un contacteur. Ensuite, il a utilisé un logiciel d'aide tracking, donc à l'aide des mouvements de la tête, pouvoir piloter le curseur de la souris et le contacteur. Et donc maintenant, lui-même utilise, puisqu'il progresse, utilise la souris virtuelle en déplacement. Ok. Alors pour terminer, j'en ai juste pour 2 minutes si vous voulez bien. 1 minute ? Merci. Alors j'aimerais vraiment dire ici que Sibyl, ce n'est pas juste un logiciel qu'on fournit et puis derrière c'est terminé. Ce qu'on aimerait, c'est que ça reste un projet collaboratif. L'idée derrière, c'est que les personnes qui utilisent Sibyl, on aimerait avoir des retours d'utilisation, que ce soit constater des bugs, mais aussi demander des améliorations si vous pensez à de nouvelles fonctionnalités. On va proposer à partir de cette année des formations aux thérapeutes pour les aider à prendre en main Sibyl et à l'adapter pour leurs patients. Pareil, on s'engage à prendre en compte leur retour. Et donc pour ça, nous, on est deux personnes au laboratoire d'électronique. On n'a pas le temps de faire beaucoup de développement autour de Sibyl, donc on s'appuie beaucoup sur des étudiants. Donc on propose des stages pour faire du développement. Et donc pour ça, pour avoir des stagiaires, forcément, il faut des sous pour les payer. Et donc on fait appel aussi aux dons pour que le logiciel puisse avancer et qu'il puisse être mis derrière à disposition de tout le monde. En parallèle de ça, on propose à des ingénieurs, chercheurs aussi de développer de nouvelles fonctionnalités et de développer ce qu'on appelle des extensions de Sibyl. Il y a notamment un en cours pour la domotique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et juste pour finir, c'est ma dernière diapo, un petit clin d'œil à Lucas. Je ne sais pas s'il est là ou si ses parents sont là. Mais du coup, c'est pour vous donner un exemple de collaboration, un petit peu entre guillemets, qu'on a eu. Il y a quelques mois, on a reçu une ergothérapeute du centre médical de rééducation pédiatrique de Romans-Ferrari, près de Lyon, qui est venue à CarePap. On a fait une formation de Sibyl, alors sur 2 heures uniquement. Elle a trouvé un intérêt à l'utiliser pour un de ses patients, Lucas. Donc quand elle est revenue, elle a fait des configurations pour lui. C'est ce que vous avez pu voir très rapidement sur les photos, là, où on voyait un tableau de communication et puis un clavier virtuel. Donc c'est aujourd'hui utilisé par Lucas et on espère que dans l'avenir, ce genre d'exemple-là sera multiplié, que plus de personnes pourront en bénéficier. Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. Et je reste à votre disposition pour plus tard. Je me mettrai à côté si vous voulez voir Sibyl, le tester ou échanger. Merci. Et l'adresse, alors oui, ce n'est pas la dernière version de la présentation, là. Alors, c'est www.k-lab.fr/Sibyl, S-I-B-Y-2-L-E.